marque-page.
Et bienvenue dans le tout premier marque-page de la saison. J'espère que ça s'entend, je suis très heureuse de tous vous retrouver à l'antenne. En guise d'introduction, nous allons discuter un petit peu, histoire que je puisse m'échauffer. Raphaël, Léo, j'ai une petite question pour vous. La voici.
Oula.
Quelle est votre définition du terme bourge ?
Oh, là, oh là, là 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 là, mais tu demandes au pire. Tu demandes aux deux pires de la radio.
Bourge. Ah, c'est quelqu'un d'aisé, déjà de la classe aisée, CSP++.
Ouais.
Ouais. Qui a toujours été CSP++, dans le sens où c'est un héritage. Globalement, vous êtes bourge si vous avez vos grands-parents en peinture et encore plus si vous les avez en photo.
C'est quelqu'un qui est capable de dire que les Français sont jaloux du succès, par exemple.
D'accord.
Ouais, non, mais ça peut être juste.
Après, physiquement, c'est plutôt les cheveux plaqués en arrière, un petit polo sur les épaules, une chemise au ton pastel peu ouverte et évidemment des chaussures bateau.
J'irai pas dans le physique. Alors, par contre. On va pas
T'as
être d'accord
parce bateau,
que j'ai des chaussures bateau.
Et bah t'es un bourge.
Mais non, jamais autant été violenté.
Raphaël, ta définition de bourge.
Ben bourge pour moi, oui, c'est vraiment quelqu'un qui c'est dans son héritage c'est une façon de voir le monde où en fait il a échangé qu'avec des gens de cette classe sociale. Une relation, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins mal vu dans sa famille ou quoi que ce soit. C'est qu'en gros, il faut mieux être qu'avec des bourges. Tu vois, c'est vraiment, c'est des consanguins, mais de l'argent. C'est très bizarre.
Et pour vous, est-ce que ce terme est amélioratif ou péjoratif quand vous traitez quelqu'un de bourge ?
Ah bah, péjoratif.
Péjoratif, ça sous-entend prout-prout.
D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour vos réponses et en particulier à tienne Léo.
Ah.
Parce que je sais enfin ce que tu penses de moi. Enfin, du moins, je m'en fais une idée. Alors, figurez-vous qu'une source que je garderai anonyme m'a informé cet été que Léo me traitait dans mon dos de grosse bourge.
Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est
si,
pas
si.
Vrai.
Ne fais pas semblant, Léo. Oh, alors.
Ah, il a cassé du dos dans le sucre.
Alors, vous vous en doutez, cela m'a profondément vexée. Léo pense ce qu'il veut de moi, ce n'est pas vraiment la question. Si je suis vexée, c'est avant tout parce que je pense que Léo ne m'aurait jamais traité de bourge s'il avait attentivement écouté le marque-page l'an dernier que j'ai consacré au pinson Charlot.
Exactement.
Eh bien, faisons réviser Léo en commençant la saison avec les pinsons Charlot. Pour rappel, Michel Pinson et Monique Pinson Charlot sont un couple de sociologues français. Au début de leur carrière, Michel Pinson et Monique Pinson Charlot étudiaient respectivement la classe ouvrière et le milieu urbain. À partir des années 1970, ils devinrent directeurs de recherche au CNRS. Les deux époux orientèrent alors leurs travaux de recherche sur un sujet peu étudié à l'époque, la haute bourgeoisie et la noblesse. Leurs travaux communs donnèrent lieu à plusieurs publications. Et bien après leur départ à la retraite en 2007, ils poursuivirent leurs travaux sur ce même sujet. Ils se permirent alors des publications plus engagées politiquement, puisqu'ils étaient libérés de la neutralité scientifique que leur imposait leur statut de chercheur au CNRS. L'an dernier, je m'étais intéressée à leur essai, publié en 2014 et intitulé « La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale ». Cette fois-ci, j'ai choisi un essai publié l'année de leur départ à la retraite. Il s'agit des ghettos du Gotha au cœur de la grande bourgeoisie. Donc pour l'anecdote, le titre « Les ghettos du Gotha » n'a pas été choisi par les Pinson Charlot, mais par leur éditeur. Et ce titre ne leur plaisait pas vraiment. A priori, ghetto et haute bourgeoisie recouvrent des réalités contradictoires. Dans l'Europe médiévale, le ghetto désigne un quartier où les Juifs étaient contraints de vivre séparés de la population non-juive. Au XXe siècle, le ghetto désigne plus généralement un quartier où une communauté ethnique ou religieuse vit séparée du reste de la population. Quelle que soit l'époque, les communautés concernées sont contraintes de vivre dans un ghetto parce que discriminées ou socialement défavorisées. On le voit, le choix de l'éditeur s'est surtout voulu provocateur et d'une certaine façon, ce choix est plutôt judicieux. En effet, le ghetto désigne un espace. Ce terme pose d'emblée le parti pris des Pinson Charlot d'étudier l'exercice du pouvoir de la haute bourgeoisie à travers leurs espaces de vie. Et vous comprendrez au fur et à mesure de votre lecture qu'une contrainte se pose à la haute bourgeoisie. Cette contrainte ne concerne pas tant le choix du lieu de vie que sa nécessité de maîtriser l'espace dans lequel elle évolue pour conserver sa cohésion de classe. ne vous attendez pas à trouver dans cet essai une carte détaillée des lieux de vie de la haute bourgeoisie. Toutefois, les Pinsons Charlot ont diversifié leurs exemples, de l'Île-de-France aux autres régions françaises, de manière à prouver que les mécanismes qu'ils décrivent sont à l'œuvre partout où vivent les représentants de cette classe sociale. L'essai est divisé en 8 parties et porte sur les lieux de vie à différentes échelles. Ce que j'apprécie beaucoup dans cet essai, c'est que les Pinsons Charlot examinent tout d'abord une réalité palpable pour chacun d'entre nous, à savoir le domicile, pour ensuite évoluer vers d'autres espaces où personne ne se douterait des rivalités en jeu. Dans un premier temps, les Pinsons Charlot s'intéressent aux logements occupés par la haute bourgeoisie. Vous vous en doutez, ces logements se caractérisent par une vaste surface habitable qui se compte en plusieurs centaines de mètres carrés. La configuration des espaces est très révélatrice des modes de vie. En effet, la haute bourgeoisie sacrifie volontiers les espaces dédiés à la vie privée pour les espaces de réception. Les Pinsons Charlot ont pu constater que la salle à manger était une pièce centrale de tout logement. Un logement se doit aussi de disposer à minima d'un grand salon et d'un petit salon. Ces espaces encouragent les invités à engager des conversations pour faire connaissance ou évoquer des sujets divers. Si la surface est révélatrice de la richesse économique, notamment en Île-de-France, elle permet aussi d'afficher sa richesse sociale. Les appartements sont un lieu d'exposition du capital culturel et du bon goût de la famille qui accueille. Les Pinsons Charlot confirment un constat connu et partagé de tous. La volonté de la haute bourgeoisie de cultiver son entre-soi et son rejet de la mixité sociale. À cet égard, ils étudient plusieurs cas de quartiers ou de communes situés en milieu urbain ou rural que je vous laisserai découvrir. Une fois ces constats posés, une question surgit. Comment est-il possible que de tels espaces puissent exister malgré un cadre réglementaire qui oblige notamment les communes à disposer d'un parc HLM ou des dispositifs comme le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France ? Avant toute chose, il faut savoir que la haute bourgeoisie est une classe sociale qui se reconnaît comme telle. Dans ces conditions, ses membres sont très solidaires entre eux. Par opposition, les Pinsons Charlot regrettent que les membres des classes sociales populaires, notamment ouvrières, ne se reconnaissent plus en tant que classe. En cause, la diffusion des valeurs capitalistes dans toute la société qui encourage le développement de l'individualisme au détriment du collectif. Les mobilisations, comme les grèves, sont trop ponctuelles pour être l'expression d'une réflexion de fond qui permettrait d'engager une démarche cohérente de défense des intérêts populaires. Bien au contraire, les membres de la haute bourgeoisie sont constamment et surtout discrètement mobilisés dans la défense de leurs intérêts communs, à savoir le maintien et la transmission de leur patrimoine économique, historique et culturel, qui garantit leur richesse et leur influence. Indépendamment du sujet passionnant que constitue l'étude de la haute bourgeoisie, je recommande vivement de lire les Pinsons Charlot, car il rappelle que la grille d'analyse la plus pertinente pour une société reste celle de la classe sociale, et non pas, comme on l'entend trop souvent, celle des luttes des minorités. Les hommes contre les femmes, les blancs contre la diversité, les cisgenres contre les trans, et j'en passe. Comment les membres de la haute bourgeoisie parviennent-ils donc à se mobiliser ? Pour y répondre, les Pinsons Charlot se sont penchés sur les modes d'organisation de la haute bourgeoisie. Ils distinguent trois types d'entités. Nous avons tout d'abord les rallyes. Il s'agit du regroupement d'adolescents du même milieu. L'objectif des rallyes est de garantir une certaine homogénéité dans la haute bourgeoisie. Les jeunes apprennent dans les rallyes à reconnaître leurs semblables et à identifier les partenaires possibles pour les relations amicales ou amoureuses. Tout au long de l'enfance puis de l'adolescence, les rallyes prévoient des sorties culturelles pour inculquer aux enfants la proximité de leur milieu avec le monde de l'art, mais aussi des cours de danse ou des soirées dansantes pour favoriser les rapprochements. Autre mode d'organisation très discret mais puissamment influent, les cercles. Il existe une centaine de cercles, locaux, nationaux, voire internationaux. Certains ont des effectifs réduits, d'autres comptent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de membres. Vous connaissez peut-être quelques noms de cercles. Cercle de l'Union Interalliée, l'Automobile Club de France, le Nouveau Cercle de l'Union ou l'Union Club Bordelais. Les conditions d'accès à ces cercles sont très variables, mais la sélection de ses membres est très sévère. Les cercles structurent des réseaux de connaissances et de compétences que chaque membre peut mobiliser en fonction de ses besoins, une recherche de capitaux par exemple. Une personne peut appartenir à plusieurs cercles et s'engager en parallèle dans des associations de sauvegarde du patrimoine historique, naturel ou religieux. Les cercles tissent des liens étroits entre acteurs économiques. Les dirigeants des grandes entreprises constituent notamment leur conseil d'administration avec des membres des cercles dont ils relèvent, qui soutiendront sans difficulté leur choix stratégique. Ils permettent aussi, et cette information est capitale, de mettre en relation des acteurs économiques avec des représentants politiques ou des hauts fonctionnaires. Les Pinsons Charlot ont pu retracer des parcours scolaires et universitaires similaires entre hauts fonctionnaires et membres de la haute bourgeoisie. Le sentiment d'appartenance à un même milieu est ensuite renforcé par l'appartenance à un même cercle. Cela explique que certains hauts fonctionnaires sont plus enclins à défendre des orientations politiques favorables à l'haute bourgeoisie plutôt qu'à l'intérêt général. À cet égard, les Pinsons Charlot proposent dans leur essai une étude passionnante sur l'aménagement du périphérique urbain parisien, qui a fait l'objet d'un soin tout particulier à l'ouest par rapport à l'est, dans la mesure où le périphérique traverse à l'ouest des communes favorisées et à l'est des communes populaires. À la connaissance des Pinsons Charlot, il n'existe pas d'autre milieu social qui coopte ainsi ses membres sur les seuls critères de la position occupée dans la société. Il démontre que la richesse n'est rien sans l'appartenance à tous ces réseaux. On comprend mieux pourquoi la haute bourgeoisie prête autant de soin à l'art de recevoir. Une fois ces modes d'organisation connus, il est plus facile de comprendre que la haute bourgeoisie parvient à maintenir sa cohésion en homogénéisant dès le plus jeune âge son cadre de valeurs et sa mobilisation permanente par une mise en relation constante de tous ses membres. Le maintien de cette cohésion et de cette mobilisation suppose des lieux et des espaces contrôlés où ces interactions peuvent avoir lieu sans aucune contrainte. L'autre point passionnant du propos des Pinsons Charlot est que la haute bourgeoisie parvient à légitimer son patrimoine auprès de l'ensemble de la société et des institutions publiques. En effet, l'histoire des familles de la haute bourgeoisie se confond avec l'histoire de France. Le patrimoine de ces familles, qu'il soit architectural ou naturel, revêt un intérêt historique majeur qu'il convient de préserver. Aussi, la société admet sans difficulté que des monuments ou des sites naturels qui appartiennent à ces familles puissent recevoir des subventions publiques pour leur entretien. Sous couvert de préservation d'un patrimoine national commun, la haute bourgeoisie garantit la transmission et la valeur de son propre patrimoine. Des institutions publiques, comme l'Institut de France, ont d'ailleurs ce rôle de gestionnaire de patrimoine d'anciennes grandes fortunes, qui ont choisi de léguer leurs biens à l'État. À travers ces sites emblématiques, la haute bourgeoisie parvient ainsi à maintenir sa domination culturelle. Bien évidemment, votre lecture des Ghettos du Gotha vous apportera bien plus de détails à ce propos. Comme tous les livres chroniqués dans le marque-page, cet essai est disponible à la BU, sur le site de La Victoire notamment. Toutefois, attendez un peu avant d'aller l'emprunter, parce que je l'ai réservé pour Léo. En parlant de Léo, qui, je vous le disais, me traite allègrement de Bourges. Je ne doute absolument pas qu'il trouvera dans sa lecture matière à réflexion. Pour ma part, j'ai été frappée par des similitudes absolument troublantes entre son mode de vie et celui de la haute bourgeoisie. Par exemple, Léo m'a informé qu'il vivait dans un appartement qui dispose d'une grande pièce principale et d'une immense terrasse, lui permettant de recevoir un large cercle d'amis. Enfin, amis, peut-être les membres d'un cercle auquel il appartient. Qui plus est, il est très fier de posséder un lave-vaisselle. J'en déduis donc qu'on ne fait pas de soirée pizza chez Léo, mais que nous sommes reçus dans les règles de l'art, avec tout le service de table. Contre toute attente, Léo se montre aussi très proche de personnalités politiques influentes. Figurez-vous que le campus universitaire de Bordeaux a reçu début septembre la visite de Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Radio Campus a publié sur sa page Facebook un post à ce sujet. Post qui n'a recueilli aucun j'aime, exception faite de celui d'un certain Léonidas de la Marmottin, qui n'est autre que le pseudonyme de Léo. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas que l'équipe de Radio Campus soit complètement en phase avec la politique menée par le gouvernement actuel. L'intérêt de Léo pour Sylvie Retailleau ne peut donc s'expliquer que par une connivence de classe. Pour finir, nous avons vu qu'il est très difficile de s'attaquer à la haute bourgeoisie, tant son patrimoine se confond avec la grande histoire. De mon côté, force est de constater que je rencontre une difficulté similaire, car je ne parviens pas à en vouloir à Léo qui reste, malgré ses propos désobligeants à mon égard, mon animateur préféré. Bref, entre Léo et moi, je pense que Léo est le plus bourge de nous deux. Léo, je te retourne donc le sobriquet dont tu m'as affublé. Sur ce, à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.